C'est reprendre courage. Je ne connais personne qui n'ait pas été découragé dans sa vie, pour une raison ou une autre, mais aussi sur un plan spirituel, mais pas que. Pour le roi David, ça a été compliqué à un moment donné. Alors qu'il était parti en guerre avec, il n'était pas encore roi, alors qu'il était parti en guerre avec une troupe de personnes, eh ben, quand ils sont revenus chez eux, il se trouve que une autre bande, un autre roi était venu faire la guerre, et puis, en tout cas, ils ont pillé toute la ville où habitait David. Et puis ils sont partis avec les femmes et les enfants. Ce qui fait que les amis de David ont dit « c'est trop pour nous et on va le lapider ». Ils avaient envie de lapider leur général. C'est un peu faux, hein ? C'était des amis, mais non. Dans cette situation, il n'y avait plus d'amis. C'était David qui était la faute et c'est lui qui a, j'allais dire, cristallisé toute l'amertume de sa troupe. Et ils étaient quelque chose comme 200, si je m'abuse. On va le lire. Finalement, David se vit dans une situation très angoissante. Ses compagnons parlaient de le tuer à coups de pierre. Chacun d'eux était plein d'amertume en pensant à ses fils et à ses filles. Cependant, grâce au Seigneur son Dieu, David reprit courage. C'est dans la version français courant. Une autre, la traduction Séraphim nous dit « Cependant, David puisa des forces dans la pensée du Seigneur son Dieu. » Ou encore « David est dans la détresse, très fortement, très fort. David se renforce en Adonai, son Dieu. » Enfin, dans le Semeur, David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. On ne sait pas. Le texte biblique ne nous dit pas comment David a fait. Quelle attitude il a eue devant ces hommes? On sait seulement que s'il a été sauvé, c'est grâce au fait qu'en Dieu, il a repris courage. Je voudrais voir avec vous ce matin cinq manières différentes de reprendre courage et qui nous est proposé. Enfin, en tout cas, je vous propose, il y en a peut-être plus, mais je vous en propose cinq aujourd'hui. Voilà, si vous voulez, vous pouvez noter. La première manière, me semble-t-il, de reprendre courage lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes, comme David, dans l'angoisse, dans des impasses, c'est de penser à ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. C'est-à-dire de laisser parler pour nous l'expérience qui est la nôtre de la fidélité de Dieu. Si le Seigneur a été fidèle il y a un an, il y a deux ans, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas fidèle aujourd'hui. Le fait d'être dans les problèmes et les difficultés, ben, j'allais dire, c'est le lot de tout le monde, et j'allais dire, heureusement que nous avons des temps de difficultés, de complexité, parce que ces temps-là nous font grandir, mais j'y reviendrai peut-être. Le souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, on ne sait pas, enfin, on ne sait pas, on ne sait pas toujours, mais c'est quand même Dieu qui a institué la fête de Pâques, celle de Pentecôte, la fête des tabernacles qu'on va vivre, ou Soukhot, là, qu'on va vivre bientôt. Quand on pense à Pâques, on pense à quoi? En tout cas, les Juifs, eux, pensaient à la sortie d'Égypte. Ils étaient esclaves et tout d'un coup, ils sont libres. Et donc, le Seigneur a dit, pour qu'ils puissent se souvenir qu'ils sont libres, je vais instituer la Pâque. Comme ça, chaque année, le peuple va se rappeler qu'ils étaient esclaves et que je les ai rendus libres. À Pentecôte, pour les Juifs, c'est le don des 10 paroles ou des 10 commandements que Dieu a donné à Moïse sur le Sinaï. Et Dieu a dit, pour pas qu'ils oublient, je veux instituer une fête qui s'appelle Pentecôte, ça veut dire 50 jours après Pâques, pour qu'ils puissent se souvenir. Alors sans trop anticiper sur la fête de Soukhot qu'on va vivre bientôt, il a dit, on va instituer une fête qu'on va appeler la fête des tabernacles ou de Soukhot ou des tentes, mélangées à la fête des récoltes, enfin on verra ça bientôt. On va instituer cette fête des tabernacles et des cabanes pour que le peuple n'oublie pas que pendant 40 ans, il était dans le désert, et que pendant 40 ans, j'ai su pourvoir à leurs besoins en nourriture, en eau. Même le texte biblique dit que leurs vêtements et leurs sandales ne se sont pas usés. Je ne sais pas ce qu'ils avaient comme matière, mais c'est quand même assez exceptionnel, hein ? 40 ans. Dieu a pourvu à leurs besoins. Et donc, à chaque fois qu'il y a une fête, c'est pour que le peuple se souvienne. D'ailleurs, nous ne faisons pas autrement dans notre pays. Nous fêtons le 14 juillet, nous fêtons le 11 novembre ou le 8 mai pour dire que on a une fête en souvenir de... La première manière de faire en sorte que d'être encouragé dans les problèmes et les difficultés qui sont les nôtres, c'est de nous rappeler de la fidélité de Dieu dont nous avons fait l'objet par le passé. La deuxième proposition se trouve dans ces versets. Psaume 42, verset 5. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi ? Attends-toi à Dieu. » Le psaume 103 dit à peu près la même chose. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » En fait, pour bien comprendre, ce texte c'est pourquoi t'as battu mon âme ? Et pourquoi j'ai gémis-tu ? Ça, si je prends les choses autrement, c'est Hé, Bernard ! C'est moi, hein, Bernard, si vous ne savez pas. Hé, Bernard, pourquoi tu gémis ? Pourquoi tu t'abats ? Tu es dans la difficulté ? Ok. Allez, réveille-toi et fais en sorte que tu t'attendes à Dieu. C'est de se parler à soi-même et de prendre des décisions nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Dans un langage courant, on dira « il faut se bouger » au lieu de s'apitoyer sur soi. J'ai déjà fait une fois une prédication sur Calimero. Hein ? C'est une espèce de petit poussin qui dit « personne ne m'aime, je ne vais pas bien ». Pardon ? C'est vraiment trop injuste. Ah ouais, mais complètement. Ouais. C'est sans arrêt dans le négatif et dans le pleur. J'allais dire dans le truc, c'est un pleurnichard, quoi. C'est pas simple de vivre dans la difficulté, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et pour certains, c'est plus difficile effectivement que d'autres, et nous sommes pas tous, constitués de la même manière. Il y a des introvertis et puis des extrovertis. Moi, je serais plutôt introverti. Ah, je voulais savoir si vous suiviez. Donc, c'est pas toujours simple. Mais en même temps, ça sert à rien de rester là à pleurnicher. À un moment donné, en tout cas David, puisque c'est lui qui dit ça, hey, pourquoi tu t'abats, David ? Allez, mon âme, pourquoi tu gémis ? Attends-toi à Dieu. Change la manière de voir et de réagir. Vous savez, on rencontre des fois des personnes qui sont comme Calimero, ça va jamais bien. Et c'est assez, enfin, le terme dramatique n'est pas approprié, mais c'est pas très drôle parce que vous pouvez à chaque fois demander à la personne si elle va bien, vous savez déjà comment elle va vous répondre. En disant, ben non, ça va pas, il y a ceci, il y a cela. Et le souci, c'est que il y a une espèce d'aggravation dans le fait que, au bout d'un moment, les personnes vous demandent plus comment vous allez. Les personnes ne viennent plus vous voir en disant, ben, cette personne, elle va de nouveau me dire que ça va pas. Et c'est pas marrant, et ça accentue, j'allais dire, le malaise et le mal-être. La louange. Moi, je suis pasteur, mais c'est pas parce que je suis pasteur que c'est toujours olé olé. À un moment donné, il y a quelques années, je passais par un temps vraiment, vraiment compliqué, et là, j'arrivais pas trop. Alors, j'avais beau dire, allez Bernard, vas-y, ça coinçait un peu. Alors j'ai mis des chants de louange, et au travers des chants de louange, au fur et à mesure, ça allait mieux. Je comprenais pas les paroles parce que c'était en anglais, mais il y avait une onction qui permettait que mon âme puisse être vivifiée. La lecture biblique, ah, ça va pas bien. Et j'ai des fois dit au Seigneur, j'ai pas envie de lire la Bible, Seigneur, aujourd'hui. Bon, oui, mais je vais le faire quand même, parce qu'elle est source de vie et d'encouragement. Quand j'étais plus jeune, ouais, il y a fort donc longtemps, au siècle dernier, quand je me mettais en pétard contre Dieu, parce que ça m'arrivait, aujourd'hui je suis plus apaisé, mais quand même, j'avais des trucs assez durs avec lui, et je lui disais, ben, puisque tu réponds pas à mes prières, je boude. Je viens plus à l'église. Je viens plus te prier, etc. Mais au bout de 3 semaines, tu te dis, oh. Alors, je savais plus comment revenir vers Dieu, parce que j'avais l'air tellement... Dans sa grâce, le Seigneur m'a accordé la possibilité du don des langues. Donc je disais au Seigneur, je ne sais pas comment revenir vers toi, mais je vais prier en langue. Et puis, 10 minutes, un quart d'heure après, hop, ma communion avec Dieu était revenue. J'étais moins dans, renfermé sur moi et sur ma culpabilité. Il y a un ami pasteur, change de sujet, mais le fait de se rappeler, j'ai été impressionné par un frère pasteur. On avait organisé une pastorale pas trop loin d'ici. On avait demandé à ce que un ministère prophétique vienne. Donc on a eu un prophète pendant tous ces deux jours. Et puis, un des pasteurs qui était là, 6 mois après, je crois, il était hospitalisé pour un cancer. Et il me disait au téléphone, « Bernard, je suis confiant parce qu'au moment où j'étais en train de démarrer avec ma voiture pour partir, ce prophète m'a arrêté la voiture et m'a dit, « Mon frère, je te vois sur un lit d'hôpital. » Donc si Dieu m'a dit ça, quelle que soit l'issue de ce que je vais vivre, je sais que Dieu sait. Et ça a été pour lui, il me dit, « Tu ne peux pas savoir, c'était inattendu, je n'ai rien cherché, mais cette seule parole a été pour moi un encouragement à faire confiance dans le Seigneur. » Quelle que soit l'issue de cette maladie du cancer. Alors on peut avoir des problèmes, des difficultés, mais la parole dit, rejette ton fardeau, mets-le sur le Seigneur et il te réconfortera. Ou une autre traduction, « Décharge-toi de ton fardeau, rejette ta charge sur l'Éternel et il te soulagera. » Dans le psaume 55, 23. Et dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7, « Déchargez-vous », le vrai terme, c'est « Jetez sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Jette tes soucis sur Jésus. C'est... J'entends Francine nous dire tout à l'heure, nous témoigner que pendant 1h30, elle était sous sa douche et qu'elle s'est nettoyée avec une brosse à fer presque. Enfin bon, c'est pour... je trouve que des fois, il y a des gestes qui sont importants. Si tu te dis, tiens, ma chemise ou ma veste représente mon fardeau et ma difficulté, alors je l'enlève et je le jette sur Jésus. Je fais un geste comme quoi je ne veux plus ce fardeau et je le jette, je le mets sur Jésus. Comment est-ce que tu arrives, c'est une question que je te pose, de manière très directe, comment est-ce que tu arrives à t'encourager toi-même lorsque tu es dans les problèmes et les difficultés? C'est une vraie question. Comment est-ce que tu t'y prends, toi, quand tu n'es pas bien, quand tu es découragé, quand tu en as marre, quand tu es angoissé, comment est-ce que tu fais? Je ne te demande pas de réponse. Tu la prendras quand tu seras seul avec le Seigneur ou avec toi-même. Un troisième moyen que le Seigneur nous donne pour être encouragé, c'est un peu comme la rencontre aux trois tavernes. Vous connaissez les trois tavernes dans la Bible? Je trouve que le terme, moi, quand j'ai lu trois tavernes dans la Bible, je me suis dit, ah tiens, ça, je vais me rappeler. C'est l'apôtre Paul qui, est envoyé, enfin doit aller à Rome, mais sur son parcours, il y a des naufrages, il y a ceci, il y a cela, enfin bref. Et il nous est dit, les frères de cette ville, donc de Rome, avaient eu de nos nouvelles. Ils vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux trois tavernes. Vous vous rappelez des trois tavernes ? Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Ou un autre texte nous dit, une autre traduction, il remercia Dieu et se sentit encouragé. Si Paul s'est senti encouragé, c'est qu'il était découragé. Et il avait beau être Paul, il passait aussi par des temps complètement difficiles. Des fois, on se fait une idée, Paul, etc., presque le gars invincible. Mais non, découragé le mec. On l'aurait été pour moi. Il a quand même subi trois naufrages, le gars. Sans parler des coups et sans parler d'autre chose. Mais il a repris courage. Il a repris courage, pourquoi ? En voyant les frères. Ça lui a fait du bien. Je me sens... Je ne suis pas tout seul. Il y a des personnes qui sont là pour prier. Les trois tavernes, c'est à peu près 35 kilomètres de Rome. L'église, la communauté, l'assemblée, appelez-la comme vous voulez, elle est faite aussi, elle est là aussi pour que nous puissions nous encourager mutuellement. Tu es malade ? Ok, est-ce que je peux faire tes courses ? Est-ce que je peux aller à la pharmacie pour toi ? Est-ce que je peux faire ton ménage ? De quoi as-tu besoin ? Ça peut être ça aussi. Il y a quelques mois, vous vous rappelez, on a subi des vols de guitare ici et puis à la maison de prière, des dégradations. C'est pas que j'étais découragé, mais quand on a fait un appel financier, on a dû dire stop, arrêtez de donner de l'argent parce qu'on en a trop. Je trouve ça extraordinaire, quoi. C'est la vie de l'Église, mais c'est chouette, quoi, ça, à vivre. Je trouve. Encouragé par le fait qu'il y a de plus en plus de jeunes dans notre communauté qui sont engagés. Encourageant. Si on les écoute, ils diront, alors ils ne le diront pas comme ça parce qu'ils sont, ils sont polis, mais enfin, il n'y avait que des vieux avant. Cette semaine, j'ai repris ou j'ai demandé à Daniel le planning de la maison d'adoration et de prière. Mais moi, je suis vachement encouragé par le nombre de veilles nouvelles qu'il y a à la maison de prière. Et notre église se voudrait effectivement, alors on n'est pas encore en 24 heures sur 24, mais j'espère que nous sommes en route. Les encouragements, c'est aussi de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. De dire c'est bien, ça fait du bien. L'encouragement a un effet stimulant. Nous grandissons mieux avec les « c'est bien » qu'avec les critiques. Surtout lorsque ces critiques ne sont pas constructives. Parce que est-ce que tu trouves régulièrement des sujets d'être encouragé par la vie de l'Église, par les frères et sœurs en Christ ? Alors après, je fais juste une parenthèse, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je me rappelle d'une discussion eue avec un frère qui nous a quittés depuis, mais voilà, c'est pas très grave. Mais on parlait des 3 jours de jeûne et de prière, et il disait, mais les 3 jours de jeûne et de prière que nous avons vécu la fois dernière, ça n'a rien donné de positif. C'est pas drôle d'entendre cela. Et je me suis rappelé, alors comment est-ce que je me suis encouragé en entendant ça? Je me suis encouragé en repensant à un des derniers jeûnes de 40 jours que j'ai fait, et où j'avais moi aussi l'impression que mes 40 jours de jeûne et prière n'avaient pas servi à grand-chose. Et puis... je suis allé peu de temps après dans une rencontre de pasteurs où les gens ne me connaissaient pas, certains me connaissaient, mais il y a un des, je ne sais pas, même pas s'il était pasteur, mais qu'importe, une personne est venue me voir en me disant « Le Seigneur me dit que tu as jeûné 40 jours ». Je dis « Ouais ». Il me dit « Peut-être que tu penses que ça n'a servi à rien, mais moi je te dis, dans les cieux, le Seigneur l'a vu et les puissances démoniaques aussi. » Ouais, je trouvais ça encourageant. Et même si effectivement ce frère trouvait que les 3 jours de jeûne et prière n'avaient peut-être pas servi à grand-chose, c'était juste une vie, une vue, j'allais dire humaine, mais dans les cieux, ça se passe autrement. Dieu a d'autres... Le Seigneur voit les choses d'une manière différente. Donc on ne peut pas être... on n'est pas tous sur la même longueur d'onde, ce n'est pas très grave. Dans notre vie, il y a des saisons. On voudrait tous être à l'été. Mais après l'été, c'est le printemps. Après l'été, c'est l'automne. Et après vient l'hiver. Et l'hiver, c'est froid. C'est stérile, on pense. Mais heureusement qu'il y a du froid. Parce que ça permet au printemps de refleurir. Tu as besoin de moments difficiles. Je l'ai déjà dit il y a 15 jours ou 3 semaines. Tu as besoin de moments difficiles dans ta vie afin de pouvoir grandir et que les fruits puissent... les fleurs, puis les fruits puissent éclore. J'ai relu, je ne sais pas en quelle occasion, ce verset, ce texte où l'apôtre Pierre a été très dur avec Simon. Simon qui voulait monnayer le don de l'Esprit-Saint. Et la traduction, la traduction dit « crève avec ton fric, avec ton argent ». C'est un peu violent. « Ah, il m'a dit crève !» Bon. C'était pas pour l'assommer, c'était pour le secouer, parce que Simon avait besoin de réaliser qu'il était dans l'erreur. Donc, quel... regarderas-tu sur l'Église, sur l'Assemblée? Est-ce que notre Église doit ressembler à l'Église de Mulhouse, où ils sont 2500? Ou pas? Est-ce que moi, en tant que pasteur, je dois ressembler à mon frère et ami Samuel Peter Schmidt, avec qui j'ai vécu, puisque j'ai été accueilli dans la maison de Jean et Suzanne Peter Schmidt à un moment donné, dans ma jeunesse. Allez, on va un tout petit peu plus loin, je voudrais finir. La quatrième possibilité, j'allais dire, d'être... encourager, c'est de dire que Jésus était lui aussi en difficulté. À un moment donné, il était en difficulté, au point que, tellement angoissé, il y a des gouttes de sang qui sortaient de son front. Si ça, c'est pas de l'angoisse, Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors un ange du ciel se montre à lui pour lui redonner du courage. Alors un ange lui apparut du ciel pour lui redonner des forces. Un ange qui le réconfortait dans Luc chapitre 22, 43. Et vous vous rappelez peut-être de cet épisode où Élisée était en difficulté, enfin en difficulté, il y avait des chars qui étaient venus pour se saisir de lui et le faire mourir. Et son serviteur Géasi disait « Regarde, il y a le roi Hadad, si mes souvenirs sont bons, il est là pour nous prendre. » Et Élisée de dire « Mais Géasi, regarde comme l'Éternel. » Et donc Élisée pria « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, Géasi donc, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élysée. En fait, on est tellement coincé avec notre regard terrestre qu'on a du mal à voir les choses surnaturelles. Et le Seigneur nous appelle à vivre, à avoir un regard qui ne soit pas seulement le regard sur le monde dans lequel nous sommes, mais aussi le regard surnaturel. Alors j'ai bien aimé Jésus, il y a un ange qui est venu le fortifier. Et j'ai entendu ce matin que pour Francine, l'ange c'était Daniel. Alors je ne sais pas comment je vais vivre les prochains jours. J'ai un ange chez moi. La taquine. Je ne sais pas si certains s'en rappellent, mais nous avions prié un dimanche, tous ensemble, on était venus là, pour prier pour un couple, une famille de Marocains qui étaient persécutés. Et il nous avait demandé la prière. J'avais reçu un mail, je ne sais pas pourquoi. Reçu un email. Au secours, nous sommes dans la persécution de notre famille, etc., etc. Et donc on était venus là, tous là, à prier. Et pendant qu'on était en train de prier, mes yeux se sont ouverts. Et ne me demandez pas pourquoi ou comment, mais j'ai vu ici, sur l'estrade, 200 anges. Ils étaient avec les casques, etc. Et à un moment donné, nous avons ordonné aux anges de partir au Maroc pour aider cette famille. C'était impressionnant, parce que ce n'est pas naturel et ce n'est pas non plus tous les jours. Et en rentrant, j'envoie un email à ce frère en lui disant « Voilà ce qu'on a vécu ce matin. » Il me dit « À quelle heure ?» Je lui donne l'heure et il me dit « C'est l'heure exacte où on demandait au Seigneur de nous envoyer des anges pour nous secourir. » Je ne vais pas faire un enseignement sur les anges, mais juste dire que des anges peuvent venir nous secourir, nous encourager, nous fortifier. Je ne vous raconterai pas non plus, en tout cas pas aujourd'hui, comment un ange est venu chez nous à la maison, j'allais presque dire, enfin, en ayant pris l'apparence d'un SDF. Et il voulait voir comment nous accueillons les personnes chez nous, mais ce sera pour un autre jour. Enfin, le cinquième point que je voulais voir avec vous, c'est que il est des occasions où le Seigneur lui-même vient pour nous encourager. La nuit suivante, le Seigneur s'approcha de Paul et dit « Prends courage ». D'autres traductions, hein, le Seigneur apparut à Paul. Le Seigneur se tint près de lui et dit « Aie bon courage ». Le Seigneur vint le trouver, le Seigneur se présenta à lui. Le Seigneur se présente à Paul. pourquoi il se présente à Paul et il ne se présenterait pas à nous. C'est juste ça, quoi. Parce que nous sommes des frères et des sœurs comme Paul. Et dans des moments compliqués et difficiles, le Seigneur peut s'approcher de nous. Faut-il juste discerner que c'est lui qui est là et qui se tient à côté de nous et qui nous aide. Alors je le disais tout à l'heure, nous avons tous des problèmes et des difficultés. Je repense, quand je pense à ça, je repense à un frère qui est parti servir le Seigneur ailleurs. Peu de temps avant de partir, il nous disait en conseil d'église, « Ah, mais moi, je veux vraiment être comme Joseph, avoir un poste de Premier ministre. Hein, » Et il a ajouté, « Mais sans avoir les difficultés qui étaient là avant. » Pas possible, quoi. Tu veux être Joseph, mon gars, tu vas morfler, quoi. C'est pour être cru, hein. Parce que la formation de Joseph est passée au travers des souffrances et des difficultés, des incompréhensions qui ont été les siennes. Jésus s'approche de Paul et Jésus peut s'approcher aussi de nous. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme ou notre femme extérieure se détruit, la maladie, l'handicap, ceci ou cela, notre homme, notre femme intérieure se renouvelle de jour en jour. En fait, le fait que par l'Esprit Saint nous soyons renouvelés à l'intérieur ne devrait pas dépendre de notre corps. De notre esprit, quand je dis esprit, c'est de nos états d'âme et de nos émotions. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les regards fixés sur Jésus. Je terminerai en disant, j'affectionne, vous le savez, pour ceux qui sont là souvent, j'affectionne un slogan que j'avais découvert lorsque nous étions responsables d'un café-bar à Lille avec mon épouse. On l'avait mis là dans ce lieu de rencontre et d'échange, de rencontre où il y avait surtout des marginaux qui venaient, mais pas que, des drogués, des prostituées, mais aussi des personnes normales. Ou sans difficulté, comme on dit. C'était marqué « Quand tout s'écroule, Dieu demeure. » C'est noté là. C'est noté dans mon bureau. C'est un slogan qui est si court et qui veut dire tellement de choses. Si tu as l'impression que tout s'écroule, et tu as peut-être raison de penser et de croire que tout s'écroule, sache que si tout s'écroule, Dieu demeure, lui. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce de ce que... Lorsque nous sommes découragés, toi, tu viens et tu fais en sorte que nous puissions être encouragés. Les moyens sont différents et nous te prions pour que nous puissions, chacun à notre niveau, chacun là où nous en sommes, j'allais dire, sur le plan spirituel, donne-nous de trouver l'encouragement. Soit au travers des autres, soit au travers de toi, soit au travers de nous-mêmes. Mais donne-nous de ne pas, comme je le disais dans le verset que comme le disait le verset d'introduction, n'abandonnez pas votre assurance, n'abandonnez pas votre foi. Eh bien, Seigneur, nous ne voulons pas abandonner, nous ne voulons pas perdre la force de la foi, mais y tenir ferme. Tu es Jésus, notre Seigneur. Tu es Seigneur, notre Dieu. Tu es notre roi en qui nous pouvons nous confier. Tu es notre rocher et notre abri. Ça ne veut pas dire que tu ne permettras pas l'épreuve et la difficulté, mais tu as dit que tu serais tous les jours avec nous, chaque jour. Et nous t'en remercions. Amen.